Vous êtes toujours sur la locale, 97.3 à Saint-Girons, donc avec Ta voisine et féministe et l'apéro des voisins-voisines, c'est antenne ouverte en mixité choisie. Du coup, on va écouter un petit montage qui va introduire la partie suivante.
Comment on fait pour que ça s'arrête ?
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 Brisons le silence.
Brisons le silence.
Créons des solidarités.
Créons
libérons
des solidarités.
La parole.
Libérons la parole.
Stoppons la honte.
Stoppons la honte.
Son las ocho menos cuarto. Me tengo que levantar.
Dans le cadre des journées internationales de lutte contre les violences faites aux femmes, et devant l'indifférence et le silence qui entourent les situations de violence conjugale, nous proposons un temps de rencontre et de réflexion.
Les mécanismes spécifiques des violences conjugales les rendent complexes et difficiles à dénoncer. Nous sommes persuadés que ces violences ne se situent pas seulement dans la sphère privée, mais qu'elles prennent leur source dans l'organisation de la société.
Notre objectif est de libérer la parole, de faire tomber la culpabilité qu'on peut ressentir en vivant ou en ayant vécu des violences conjugales. Nous pensons qu'il faut créer des espaces qui permettent de rendre compte de l'ampleur du phénomène et aussi de tisser des solidarités entre les femmes.
Mieux comprendre les mécanismes sociaux en jeu dans ces violences permet de réagir plus efficacement et de mieux s'y soustraire. Nous proposons donc des rencontres. Vendredi 1er décembre à 20h au cinéma du Mas d'Asile. Projection débat du film Ne dis rien.
Samedi 2 décembre, de 13h30 jusqu'à l'heure de l'apéro, au 28 rue des Gouzis, au Mas d'Asile, accueil et atelier en petits groupes pour approfondir les questions suscitées par le film. D'autres approches seront proposées. Fabrication d'affiches, spectacle.
Voilà, c'était un petit jingle qui introduit la thématique suivante, à savoir les violences conjugales. Et on va écouter bientôt, dans quelques minutes, un montage qui va parler en fait de ce week-end qui a été organisé donc l'année dernière en décembre par des copines. Et le but de ce montage, c'était d'expliquer comment ce week-end s'est déroulé, quelle a été l'organisation, éventuellement de donner envie à d'autres copines de faire la même chose. Parce que ça a paru essentiel de créer un espace où on réfléchit, on discute, on échange ensemble sur cette thématique, un espace pour s'organiser contre les violences conjugales. Pourquoi aussi ? Parce que en fait, les violences conjugales, c'est un thème qui est souvent très tabou, et pourtant ça traverse tout le monde, tout type de milieu, et c'est un problème de société. Bref, je ne vais pas trop m'étendre sur ce thème parce que le montage en reparle. Ce que je peux peut-être ajouter, c'est qu'à la suite de cette discussion qu'on a eue donc avec deux autres copines qui ne sont pas là malheureusement aujourd'hui, c'est que personnellement, j'ai eu une sorte de frustration parce qu'à la base, on voulait juste parler de ce week-end, de son organisation. Et bien évidemment, en fait, cette thématique, elle engendre d'autres discussions plus profondes, plus personnelles sur les violences conjugales en elles-mêmes. Et du coup, j'ai eu une impression qu'on évoquait les sujets très grossièrement, qu'on le survolait et qu'à plusieurs moments, peut-être, on va évoquer des généralités sur les violences conjugales et ça ne va pas forcément parler à tout le monde, à toutes les personnes qui ont subi ce genre de violences. Du coup, voilà, ce que je voulais juste préciser, c'est que pour moi, ce montage, c'était en tout cas pour ma part un début et je me dis qu'il faudrait peut-être... réfléchir à un format un peu différent, qui n'est pas forcément montage, mais qui serait plutôt des discussions ou des émissions un peu régulières, je ne sais pas, voilà, sur les violences conjugales, parce que voilà, on ne peut pas tout dire en l'espace de 20 minutes de montage. Donc on peut peut-être lancer ça, et je vous souhaite une bonne écoute.
Du coup, on se réunit toutes les trois pour parler d'un week-end que nous avons co-organisé sur les violences conjugales. C'était au mois de novembre dernier, je crois.
1er décembre 2017.
Voilà, et on avait un petit peu profité pour les dates, on s'était un petit peu calé, pas très loin d'une journée institutionnelle contre les violences faites aux femmes.
Qui est le 25 novembre, c'est international. Voilà. Du coup, bah, cette soirée, on avait proposé pour ce week-end une soirée avec un débat et un film. Et le lendemain, des ateliers en plus petit. petits groupes pour approfondir des questions qu'on ne peut pas aborder en grand groupe, dans un débat, dans une salle de cinéma, par exemple.
Oui, et peut-être qu'on peut revenir un petit peu en arrière et dire aussi le processus qui nous avait amené à proposer ce week-end. Donc on s'est rencontrés toutes les deux, et on s'est rendu compte au cours de multiples discussions qu'en fait on avait traversé des violences conjugales.
On s'est rencontrés dans le cadre amical et on a réalisé petit à petit qu'effectivement on avait vécu toutes les deux des violences conjugales et on a eu l'envie d'en parler en fait, de pas que ça reste entre nous, pas que ça reste quelque chose de l'ordre de l'intime, mais plutôt que ça s'ouvre sur le champ plus global et questionner aussi le rôle de la société dans la possibilité du maintien des violences conjugales et aussi questionner le silence qui entoure ces situations. Et du coup, on s'est dit, en affirmant nous qu'on a vécu ça, on va peut-être permettre à d'autres de soit réaliser, soit d'affirmer elles-mêmes qu'elles avaient vécu ce genre de situation. Et faire que la culpabilité qu'on ressentait et la honte d'avoir vécu ce genre de situation, et ben elle change de camp et que ça soit au gars d'avoir un peu honte de faire de la merde comme ça. Et plus on en parle, moins ça devient tabou, et moins ça devient tabou, plus on peut se barrer facilement parce qu'on n'a pas peur d'être prise pour une conne, parce qu'on aurait vécu ce genre de situation.
Et et le fait de dire ça publiquement, même si on... Ça reste quand même pas facile. Enfin, ça reste quand même un peu honteux, mais au fil du temps, cette honte, elle s'amenuise, quoi. C'est pas du jour au lendemain que ça disparaît quand même, quoi.
Et juste une précision. Enfin, t'as dit pour que la honte change de camp et que ce soit pour les gars réalisme. Bien évidemment, les violences elles sont en majorité faites par des hommes. Après, ça existe aussi dans les couples homo. Et ça peut aussi être une femme sur une autre femme. Je devais juste à le préciser pour dire que en fait c'est pas, enfin c'est pas bien évidemment je partage cette idée que c'est majoritairement des hommes, mais ça arrive aussi dans des couples et il faut pas l'oublier, quoi.
C'est important.
Oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas travaillé pendant ce week-end là la violence faite exercée par des femmes sur des femmes,
et les mécanismes sont similaire en fait, aussi. Absolument.
Et c'est sûrement encore plus difficile à dénoncer parce que d'une part il y a très peu de paroles là-dessus, et d'autre part on veut protéger sa communauté en général, et du coup en plus, quoi, et du coup ça rend les choses encore plus difficiles à dénoncer et à voir et à avoir un moyen d'action dessus, parce que on est enfoui dans encore plus de problématiques.
Du coup, on peut dire un petit peu qu'on avait présenté donc un film le premier soir, qui s'appelle Ne dis rien, de Issia Bolen.
Qui date de 2003.
Voilà, et c'est un film qui raconte comment une femme se dépêtre avec l'homme qu'elle aime d'un problème de violence conjugale. Et ce film a quand même eu un effet sur l'assemblée qui l'a regardé assez fort. Tout le monde était, comment dire, blessé, je sais pas comment dire, ému. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça a permis à des personnes de comprendre le mécanisme dans lequel on se retrouve enfermé quand on est victime de violences conjugales. Parce qu'en fait, souvent, les gens se disent « Mais elle est complètement bête, pourquoi elle s'en va pas ? C'est quand même pas compliqué. » Et en fait, non, c'est compliqué de pouvoir partir, de vouloir partir. Parce qu'en général, évidemment, on aime la personne qui exerce des violences contre nous.
C'est tout un mécanisme psychologique. Les violences conjugales ne commencent pas par une baffe, évidemment. C'est tout un mécanisme d'emprise qui se met en place... plus ou moins rapidement, mais souvent quand même sur un temps certain, pas du jour au lendemain, quoi. Et c'est ce mécanisme d'emprise qui est difficile à comprendre et à imaginer quand on ne le vit pas soi-même. Et c'est ce qui fait que les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi les personnes ne partent pas. C'est parce qu'elles n'arrivent pas à envisager ce mécanisme-là qui est... à la fois un mélange d'amour et d'emprise, l'emprise étant pour moi, si je peux faire une définition la plus simple possible, je vais pas y arriver. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc de dépendance affective à l'autre qui se met en place à la fois par des mécanismes amoureux et à la fois par des petites violences psychologiques répétées avec un anéantissement du choix de la personne et un discrédit tout le temps sur les choix de la personne qui subit l'emprise. Et donc progressivement on ne peut plus penser par soi-même, on est obligé de penser par l'autre qui sait mieux que nous. Et donc, vu qu'on ne peut plus penser par nous-mêmes, on ne peut plus du tout s'en aller non plus, parce que qui va penser pour nous s'il n'est plus là ?
Oui, j'ai l'impression aussi, par rapport à cette emprise, qu'il y a tout un jeu, de, comme tu disais, d'affectif, et aussi que la personne qui exerce cette emprise, elle va trouver des failles dans la psychologie, ou arriver à comprendre en fait sa compagne en question, la comprendre très très bien, et du coup... Il y a tout ce mécanisme qui fait que la meuf se dit « Ah, mais en fait, il a compris des choses que moi-même, j'ai pas compris sur moi-même, sur ma psychologie, sur mes traumatismes, sur XXX raisons. » Et du coup, penser que sur le long terme, ça fait « Bah, en fait, il me connaît très très bien, donc il sait ce qui est bien pour moi, il sait ce que... »
Et c'est mieux que moi-même.
Voilà. En fait, c'est ce truc de lecture, en fait, de la personne... qui est hyper fort, j'ai l'impression.
Et au début, dans le rapport amoureux, il y a quand même un peu de ça, c'est-à-dire que dans un début de rapport amoureux, quand quelqu'un te calcule hyper bien, bah, c'est touchant, c'est émouvant, et tu te dis, waouh, quelle attention m'est portée, ce type me comprend tellement bien, il est fabuleux, quoi. Il fait vraiment attention à moi. Et en fait, au bout du compte, ça devient, c'est quelque chose de phagocyte, enfin, c'est quelqu'un qui te mange ton cerveau de... qui te mange ton cerveau, quoi.
Et puis, je pense que ce mécanisme-là, il est renforcé par le cycle de la violence qu'on a présenté aussi ce soir-là, où il y a des moments de tension très très forts. Enfin, la tension, elle monte, puis il y a un événement violent où c'est la tension psychologique très forte qui monte, qui monte, qui monte. Et après... hop, la tension, elle redescend. Et c'est ça qui fait qu'il y a de l'espoir aussi. On se dit, non, mais ça va aller mieux. Ce qu'ils appellent la lune de miel dans les trucs de psychologie là-dessus. Mais en gros, il y a un moment où ça va bien. Et en fait, où la personne dit, je vais changer. Peut-être elle peut s'excuser. Ou en tout cas, elle va faire un petit cadeau, un petit quelque chose, quoi. Qui fait que la personne qui subit ces violences dit, ah, bah, peut-être que cette fois-ci, c'était la bonne, c'est la dernière, il a compris, nani. Et donc, ce mécanisme en cycle-là, permet aussi de comprendre que les personnes qui subissent des violences sont un peu paumées parce que elles ont toujours l'espoir que de revenir à un moment apaisé et confortable avec la personne.
Moi, je voudrais rajouter aussi quelque chose, c'est qu'en en travaillant la préparation de ce week-end, du coup, moi, j'ai cherché des documents sur Internet et je trouve que je suis tombée sur beaucoup de documents qui psychologisent la question, à savoir que souvent, on dit que c'est... personnes qui maltraitent les autres sont des... je ne me rappelle plus.
Pervers narcissiques.
Voilà, des pervers narcissiques. Bon, c'est possible, je n'ai pas d'éléments pour juger ça, mais en tout cas, je trouve que ce point de vue, il nie complètement le fait qu'il y a quand même un phénomène social. Il y a quelque chose dans l'éducation des hommes et des femmes qui fait que ça serait un petit peu normal d'être dominé, que les... hommes en savent plus, ils sont plus forts, et qu'en plus il n'y a pas beaucoup d'aide pour des femmes qui voudraient partir, par exemple, c'est extrêmement compliqué, la justice les aide pas ou pas toujours, quelquefois par hasard oui, ce qui fait qu'il y a quand même socialement une responsabilité, surtout quand on voit que une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou son ex-conjoint. Ça veut dire qu'il n'y a pas quand même le tiers de la population, je ne sais pas combien d'hommes, sont malades. En fait, c'est un phénomène social et contre lequel il convient de lutter. Ce n'est pas juste des gens malades qui font ça. Peut-être on peut parler des ateliers qu'on avait organisés.
Ouais.
Du coup, il y avait 4 ateliers. Il y avait je vais les citer rapidement. Un atelier qui concernait les femmes qui ont traversé des violences conjugales et qui se posaient la question de pourquoi elles sont restées et comment elles sont parties. Il y avait un atelier qui concernait les voisins, amis, témoins de violences conjugales et comment on peut aider dans ces situations-là. Il y avait un atelier d'affiches, de gouache, de peinture pour les personnes qui auraient eu du mal à passer par la parole pour exprimer ces questions-là. Et un dernier atelier qui était tenu par des hommes, c'était le seul atelier où les hommes pouvaient être présents. Ah non, oui, c'est ça. Hein. Mmh. Et où la question pour eux était de réfléchir à la plus petite violence qu'ils avaient pu exercer contre des femmes, cas de relations amoureuses ou pas, peut-être, je ne sais pas, j'y étais pas. Voilà, du coup, on peut revenir maintenant sur les différents ateliers. On commence peut-être, tu veux qu'on commence par les amis, témoins, voisins?
Ouais, donc c'était il y a quelques temps, on devait essayer d'être clair. Donc là, c'était un atelier réservé aux proches, aux amis, aux voisins, enfin, la famille, de personnes qui avaient subi des violences conjugales. C'est important de redire que c'était non mixte, donc que des femmes, parce que je pense que ça a permis aussi de libérer la parole de beaucoup de personnes. L'idée de cet atelier, c'était d'échanger un peu sur nos expériences ou pas, de manière pas anonyme, on n'était pas obligé de dire voilà, moi j'ai vécu ça, mais d'essayer d'échanger en fait sur comment on a pu gérer ce genre de situation, comment on a été présent, comment on ne l'a pas été, quelles ont été nos erreurs ou quelles ont été. Voilà, comment en fait on peut aider au maximum une copine, une sœur, une mère ou qu'on a dans notre entourage et qui subit ces violences.
Oui, ouais. Si j'ai l'impression, j'ai envie que tu dises un petit peu ce que tu avais l'air de dire dans ce que tu connaissais de ce sujet, de à quel point il ne faut pas lâcher quelqu'un qui subit ça.
Ouais. Alors après, voilà, ce qui est quand même ressorti de cet atelier, c'est qu'en fonction des personnes, et ça je pense que c'est bien de le préciser, enfin, parce qu'il y a des schémas de la violence, comme tu disais, un cycle, il y a différents types de violences, et je trouve ça bien de préciser que c'est pas toujours comme ça. Enfin, on n'est pas obligé de se reconnaître en fait dans un cycle, et que bien évidemment, c'est la majorité des cas, ça se passe comme ça. Et du coup, ce qu'il en est ressorti de cet atelier, c'est que quand même, en fonction des personnes, il y avait des approches aussi différentes. Pour ma part, quelque chose qui a été essentiel dans l'accompagnement, je sais pas comment dire, l'aide des copines et des proches, ça a été de toujours être là. En fait, pas forcément toujours être là personnellement, mais qu'il y ait toujours quelqu'un. Et je pense que ce qui a été essentiel, c'est d'être à plusieurs à devoir gérer ça. Parce que c'est dur et parce qu'il y a des moments où on peut plus, en fait, aussi psychologiquement, physiquement, ou alors, je sais pas, on a un travail, ou on a des choses, des enfants, enfin, on a des choses à gérer. Et du coup, nous, en tout cas, ce qui a marché, c'était d'avoir plusieurs personnes qui discutent aussi qu'entre elles, sans la copine, parfois aussi avec la copine. Et chacun avait un peu un rôle différent à des moments. Par exemple, quelqu'un qui allait plutôt être que dans l'écoute et vraiment dans la compréhension. Quelqu'un qui allait être plutôt un peu plus violent et dire les choses comme elle le pensait et qu'en fait, ça n'allait pas. Je pense que ça, le fait d'être présent tout le temps et d'avoir... de pouvoir en fait à des moments aussi dire bon aux autres soutiens, bon en fait là je peux plus, c'est trop dur pour moi, ou j'ai plus le temps, est-ce que tu peux prendre le relais s'il te plaît pour être dans ce rôle d'écoute, etc. Ça je pense que ça a été primordial. Une autre chose aussi moi qui me paraît essentielle, alors voilà je reparle de mon expérience donc je dis pas que c'est universel, mais ça a été pour faire que la personne elle réalise qu'elle soit dans une situation de violence conjugale, de prendre des exemples d'une autre copine qui a vécu ça et de dire « Ah, mais tiens, c'est marrant que tu me parles de ça. J'ai une copine dans cette situation. » Alors, j'ai pas nommé les situations de violence, mais... Enfin, j'ai pas dit que c'était de la violence conjugale, mais « Ah, bah elle a vécu ça aussi. » Et ben en fait, elle s'est rendue compte qu'elle a plutôt pris cette décision-là. Enfin, voilà, essayer de faire des parallèles assez subtils avec des copines, des autres proches, pour que la personne, elle se dise « Ah, bah oui... En fait, j'ai eu ça. Donc voilà, donc l'accompagnement, d'être souvent présent, d'arriver à faire réaliser. Puis, je pense que moi, en tout cas, l'attitude que j'ai adoptée durant tout le long, ça a été de ne jamais culpabiliser la personne. Je pense que c'est universel, pour le coup. de jamais dire « Ah mais non, mais pourquoi t'as réagi comme ça ?» ou « T'aurais dû faire ça ?» ou de faire vachement attention à ce que je dis en fait, et de toujours essayer de pointer du doigt les victoires que la personne elle a pu acquérir, de toujours dire qu'elle est forte, que c'est, voilà, c'est pas facile ce qu'elle vit, et qu'elle a du courage et qu'elle est forte, et d'essayer de revaloriser en fait la personne, parce qu'il y a un travail derrière fait par... les agresseurs qui sont tout le temps dans la dévalorisation de soi et l'impression qu'on est une merde. Et du coup, ouais, moi, ça a été un truc que j'ai fait, de dire qu'en fait, putain, ces meufs, elles sont fortes, quoi.
Voilà. Oui, parce que ça arrive. Ça peut arriver à tout le monde. C'est ça. La violence conjugale, c'est pas juste des femmes faibles à qui ça arrive. C'est pas ça. Du tout, du tout.
Et même, j'ai presque envie de dire le contraire. Enfin... Enfin, en tout cas, moi, dans les expériences que je vois, ça a été des femmes très fortes, politiquement très engagées, très féministes.
Et bien, donc, l'autre atelier qui était sur les femmes ayant traversé des violences conjugales, se demandant si elles avaient traversé des violences conjugales...
Enfin, c'était vachement bien, déjà. Comme, alors, on se connaissait pas trop, en tout cas. Bah, nous, on était à la fois concernés et à la fois un peu animatrices au départ. Oui. Donc, ça nous a fait un peu flipper, ça, de réussir à trouver une place, tout ça. Et puis, lancer la parole, c'était pas facile. Du coup, on s'est servi de post-it, en fait, où on a écrit toutes, on s'est laissé, je sais pas, un quart d'heure, pour écrire pourquoi on était restés. Voilà, une phrase, par exemple, bah, j'étais amoureuse, ou je me sentais une merde, ou j'en sais rien quoi, sur un des post-it, et puis après, et sur l'autre, sur d'autres post-it, on écrivait qu'est-ce qui a réussi à nous faire partir, qu'est-ce qui a permis qu'on arrive à se dégager de cette situation, ou qu'est-ce qui n'a pas permis. Et donc on a écrit, on avait tout un tas de post-it collés par terre, et puis on les a lus un par un en groupe. Et puis, bah, des fois on débriefait, des fois on débriefait pas, avec une espèce d'intention de les classer par groupe, par exemple, de mettre dans une catégorie tout ce qui était attrait à l'emprise ou des choses comme ça. Au final, on n'a pas très bien réussi ça, mais c'était vraiment juste un outil pour parler, en fait, et pour libérer la parole. L'objectif en soi était vraiment juste de pouvoir parler, quoi. Et ça a très bien marché sur le « pourquoi je suis restée ». Puis après, sur le comment je suis partie, je trouve que ça a un peu moins bien marché parce que c'était plus compliqué.
Et puis on a manqué de temps.
Et puis on a manqué de temps.
On parlait.
On était comme, on commençait à être fatigué, je pense, de brasser toutes ces émotions-là. Donc c'était, voilà, mais c'était vachement bien de ce côté-là. Des personnes qui savaient pas trop au départ si elles étaient légitimes à venir dans ce groupe-là, je pense parce qu'elles se disaient qu'elles avaient pas vécu de violence physique et que peut-être que du coup, elles étaient pas... que c'était pas suffisamment grave ou quelque chose comme ça, encore un truc de dévalorisation. Moi, c'était grave, mais pas suffisamment pour être dans un groupe comme ça. Toutes ces personnes-là étaient évidemment bienvenues et elles sont venues. Et bon, bah, clairement, de fait, elles avaient vécu des violences conjugales. Parce que quand on commence à se poser la question, est-ce que ça c'est de la violence ou pas, souvent on peut quand même se dire qu'il y a une part de violence psychologique qui est en place, quoi.
Je voulais ajouter le fait qu'on s'était préparé ce week-end aussi en appelant à l'aide des copines, qui étaient, je ne sais plus comment on les avait appelées, peut-être des piliers, qui étaient prêtes à intervenir si quelqu'un s'effondrait, voilà, je sais pas, avait un gros chagrin, ou un peu, peut-être un peu de crise de nerfs, ou que sais-je. Enfin, que, comme nous, on était sur l'organisation, on pouvait faire appel à des copines pour qu'elles prennent en charge... les gens qui vont vraiment pas bien et qui ont besoin de s'extraire d'une réunion et qu'elles se retrouvent pas toutes seules dans la rue avec leur gros désespoir. Ben j'ai beaucoup aimé le fait qu'on pense à faire ça parce que pour moi c'était extrêmement rassurant.
Et au moment de la présentation du film, moi je me souviens avoir dit c'est un film qui montre des choses dures et on a le droit de ressentir des émotions à ce moment-là et si vous sortez pendant le film, il y a quelqu'un qui viendra voir si vous avez besoin de quelque chose, de boire un thé ou de... Il y aura quelqu'un qui sortira avec vous. Si vous n'avez pas envie qu'elle soit là, vous avez juste à lui dire « Merci, ça va !»
Thank you.
j'avais envie qu'on communique sur ces journées parce que je me dis que ça a fait du bien à des gens ici dans notre village, donc ça s'est passé au Mas d'Asile. Je me dis que ça peut se faire ailleurs et que c'est... Bon, ça demande quand même de prendre le temps pour organiser ça. D'ailleurs, quand on a décidé qu'on allait faire ça, on s'est dit, bah, on ne va pas se mettre la pression, on fera quand on sera prête. Ça nous a pris quasiment un an. Voilà, ça peut s'organiser, c'est pas indépassable.
Et il me semble qu'il y a des copines à Toulouse qui veulent reprendre le concept et le proposer bientôt à Toulouse.
Je pense que c'est ça qui est essentiel, qui a été organisé, c'est de se dire, en fait, c'est possible d'organiser ce genre de rencontre et c'est nécessaire aussi d'essayer d'arriver à s'organiser, nous, vis-à-vis de ces sujets, parce que peut-être pas partout, mais j'ai l'impression que c'est difficile pour certaines personnes de se retrouver ou de se reconnaître dans certaines... institutions ou groupes ou par exemple dans des foyers pour des femmes victimes de violences. Moi je sais que j'ai une personne en France qui à chaque fois a fait appel à ce genre d'institution, c'était beaucoup trop violent pour elle, ça lui parlait pas, ça l'a pas aidée. Voilà, je pense qu'en fait c'est de discuter entre nous et d'arriver à créer ce genre d'espace, c'est aussi, même s'il y a des choses peut-être qui vont pas ou qui sont à modifier ou à améliorer, je pense que c'est un bon début et que quelque chose qu'il faut qu'on fasse, quoi. Enfin, comme je disais tout à l'heure, de la nécessité de s'organiser entre nous, mais aussi d'aller voir des infos. Je connais quelqu'un qui a été à plein de groupes différents, à plein vu des psychologues, vu de la danse, d'acupuncture, plein de choses en fait. Et justement, ça, pour moi, ça a été. Je pense que c'est essentiel de prendre des choses à droite à gauche et de servir de ce qui existe aussi et de voir, bah, des fois ça correspond, ça peut faire un peu un pont avec le numéro de téléphone, mais des fois ça peut te correspondre à toi mais pas à une autre personne.
Mais dans ce que tu dis, ça, ce qui me fait penser, c'est que souvent dans ce processus de violence, la tendance de l'agresseur, c'est de couper tous les liens avec l'extérieur. Du coup, ne serait-ce que d'aller chez un psychologue ou un cours de yoga ou quoi que ce soit qui sorte la personne de cet enfermement et peut être précieux, et ça peut être le premier pas pour un échappatoire, quoi.
Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand tu dis de couper tous les liens, bon, c'est juste par rapport au soutien. C'était moi, par exemple, la position que j'ai adoptée, c'était toujours inviter l'agresseur avec ma copine, parce que sinon elle ne viendrait pas. Et c'était notre seul moyen à nous de l'avoir, et du coup donc de ravaler ma fierté, ma rage et mon envie de lui défoncer sa gueule et de l'inviter en fait systématiquement. Et c'est vrai que bon, des fois il venait pas, mais souvent il venait aussi, et ça a permis d'avoir quand même ce lien, en tout cas de dire à ma copine, ah bah tu peux venir avec lui. Voilà, c'est pas forcément évident, il y a d'autres proches qui n'ont pas du tout fait ce choix là. Donc voilà, c'est à chacune de voir comment, ou chacun de voir comment il se sent vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, moi, ça a été la position que j'ai eue. Et voilà.
Après, je me demandais si est-ce qu'on citait quand même, pour cet enregistrement, des relais aussi, quand même institutionnels.
Ouais, bien sûr.
Parce que moi, je sais que, par exemple, dans mon parcours, à un moment donné, j'avais vu marqué psychologue pour les violences conjugales, et je suis allée. Et je pense que ça a fait partie d'un des éléments, à partir du moment où j'acceptais que j'étais dans une situation comme ça. Je pense que ça a été une des petites pierres du guet qui m'ont permis de prendre cette décision. Du coup, on n'a pas préparé cet aspect-là, si on a des adresses.
Déjà, il y a le planning familial de l'Ariège. Ensuite, il y a aussi il y a le 39-19.
Ben ça peut aider soi-même à s'entendre dire quelque chose.
Ouais. Je vais rappeler juste le numéro de téléphone du planning familial ariégeois. C'est le 06 29 26 79 78. Si personne ne répond, il faut laisser un message, on rappelle.
Ben merci les copines.
Est-ce que tu voulais dire une petite conclusion, hein, par rapport à la...
D'avoir organisé ce week-end, ça n'a pas été sans mal, je dirais. Au début, j'étais vachement stressée. Mais après, j'étais hyper fière. Je suis encore hyper fière, d'ailleurs. Je suis hyper contente d'en reparler parce que mine de rien, c'était pas rien d'assumer devant tout le monde d'avoir vécu des violences, de m'en être sortie, de m'en sortir pas si mal. Bah, je pense que c'est bien, je suis fière. Voilà.
Oui, c'est vrai. Moi aussi.
Moi aussi.
Ouais.
On est toutes fières.
Youhou.
Après, ouais. Bon, merci cool. À ta voisine et féministe d'accueillir notre petite discussion.
Entre voisines.
You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You sitting down what it's all about. If you ain't got no money, they going to put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't have been drifting from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too.
Salut, salut, vous êtes toujours sur la locale 97.3 à Saint-Giron avec ta voisine et féministe et l'apéro des voisines. On est très nombreux, nombreuses en studio ce soir, toujours en mixité choisie, 100 mecs, 6, donc ça veut dire des mecs qui sont pas trans. Voilà, et du coup, là on est 4 autour de la table avec une voisine. Et non, tu voulais dire un truc à Mel d'abord ?
Oui, je voulais juste clôturer ce petit montage dont la qualité sonore laissait peut-être à désirer, qui a été fait très rapidement. Voilà, juste l'idée, c'était de montrer un peu comment ce week-end contre les violences conjugales s'est organisé. Et si on peut dire un mot de conclusion, c'est faites ça parce qu'on a besoin de lieux, d'endroits, d'espaces où on peut échanger, discuter entre nous. Et que c'est nécessaire et que c'était une expérience plutôt positive dans l'ensemble. Quoi d'autre ? Voilà, c'était peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de généralités et que ça mériterait de longues discussions sur cette thématique. Voilà.
Merci. Et oui, en effet, il y a eu des petits problèmes de son, mais c'est quand même génial d'avoir fait ça parce que je sais que vous avez fait ça en peu de temps et il y a quelques jours et que vos vies sont bien remplies et que c'était très chouette de prendre ce temps-là. Et du coup, bah, l'apéro des voisines, il y a des voisines. Et on en accueille une qui était dans la rue et qui a eu envie de venir s'exprimer au micro. Donc, bienvenue à toi.
Merci.
Et déjà, merci beaucoup de ta présence.
Merci.
On est content et contente de ça ici dans les studios. Oui. Et du coup, bah, voilà, pourquoi est-ce que tu as voulu venir ici à la radio ?
Parce que j'ai pas mal de choses à dire justement sur les violences conjugales, sur la façon dont on traite les femmes célibataires, les mamans célibataires, le fait d'être abaissée, humiliée, insultée, battue, tapée, bafouée. Et donc, ben moi ce soir, j'ai envie de dire que, eh ben non, on est peut-être des mères célibataires, mais qu'on a un caractère, qu'on a une force, et que notre force c'est nos enfants, et qu'on se laissera pas abattre et que voilà, votre émission, eh ben c'est génial, et qu'il faut des émissions comme ça pour que des femmes comme nous qui ont subi puissent enfin dire non. Voilà, on n'est pas des moins que rien. Moi, j'ai assez souffert dans ma vie, je sors d'une rupture, et si on m'écoute, eh ben j'aimerais bien dire que je suis heureuse d'être célibataire. Voilà. Okay. Vive le célibat.
Tu veux dire encore quelque chose ou...
Oui, bah nous on est un petit groupe de filles en fait et on est tous mamans célibataires et on se retrouve tous avec nos enfants et c'est des meilleurs moments que j'avais jamais passé de ma vie. Voilà.
D'être juste entre mères célibataires,
ouais,
avec vos enfants.
Ouais, ouais. Okay. On n'a pas de copains, de mecs qui sont là en train de nous dire non, tu sors pas, non, on ne parle pas à un tel. Parce que voilà, moi j'ai failli perdre des amis aussi par rapport à mon ex et. Et ben non, moi je choisis l'amitié en fait, parce qu'il n'y a rien que tel. Il n'y a rien de tel. Au moins c'est vrai et voilà. Moi j'ai trop été déçue dans ma vie et je ne veux plus d'hommes dans ma vie quoi.
Voilà. Waouh!
Ouais.
Tu
veux parler ou... Merci à toi et merci pour. Enfin, gros big up à toi et à tes copines et tes voisines. Et c'est trop chouette aussi que vous puissiez vous retrouver et puis discuter et être en force ensemble. Ça a l'air, là, en vous voyant, ça a l'air, oui, bien fort et ouais, bien présent.
Ouais, c'est une bonne amitié sincère.
Trop cool.
C'est trop cool que vous passiez cette soirée avec nous. On va continuer cette soirée ensemble et on va écouter de la musique. Est-ce que tu as, ouais, une envie de musique ou non, ça semble un peu... On peut aller sur Internet chercher de la musique. Peut-être, après, les techniciennes peuvent me dire non aussi parce
alors,
que peut-être je repasse un peu leur...
Il y avait une chanson de choisie, mais si vous avez, vous voulez sur commande, on peut tenter
bah,
ça.
Peut-être qu'on balance celle-ci et puis si tu en as une à nous proposer, on la met
après.
Ensuite.
Ouais.
Non, moi j'écoute ce que vous écoutez.
Ok, okay,
d'accord. Cool,
pas
très bien, si tu veux.
C'est bon, cool. Bah, voilà. Bonne suite de soirée et puis à tout de suite.
Ouais, merci. On va se retrouver pour de la musique en direct.
Ouais.
Ouh,
ça
merci,
va bien.
Au revoir.
Ça va bien avec les propos.
Bonsoir à tous, il est 17h30, bienvenue dans cette nouvelle édition. Le gouvernement annonce un couvre-feu ce soir par la voix de son ministre des Origines. Sont concernées les personnes dites différentes sur l'ensemble du territoire. Elles devront également porter un badge de reconnaissance sur leurs vêtements. Le Premier ministre renforce par ailleurs la mesure d'interdiction des rassemblements. Toute personne suspectée d'en organiser ou d'y participer sera systématiquement arrêtée. Autre information, ce soir, la police annonce qu'elle a entamé des opérations d'infiltration de réseaux clandestins. Ces réseaux seraient tenus par des groupuscules féminins, dissidents et non armés. On ne connaît pas leur mode opératoire. Seule certitude, elles encouragent clairement le mélange entre les populations différentes et les Français de souche. Et ces mélanges, pour rappel, sont illégaux depuis mars 2020. Dans le reste de l'actualité...
Ça, c'était une petite dédicace pour les copines qui sont passées tout de suite au micro, pour Lisa et toutes ses potes de Saint-Girons. Et puis on...
Pardon. Elles se sont surnommées le gang des poussettes.
Yes.
Spéciale dédicace au gang des Big poussettes qui nous écoutait dehors.
Et puis on va continuer avec une petite session musicale avec Marion et Idir qui nous ont fait des préparations pour ce soir. 5 titres, je crois.
Ouais, c'est en exclusivité pour l'apéro des voisines, 5 titres de la chanteuse mexicaine Chavela Vargas par... c'était quoi qu'on a dit ? Il dit quoi Marion, c'est votre nom de groupe.
Molieras como Le studio de la locale est grand.
C'est tellement grand. je n'entends pas ta guitare. Merde.
Déplacement local, concert en direct de Idi Kwa Marion, de Marion et Idir, Chavela Vargas, en direct pour nous, on a trop de chance.
Donc là, on va faire une chanson qui s'appelle Me gusta el sol.
Y la mujer.
Y la mujer.
Cuando llora. Alors,
fait,
je crois pas qu'elle l'ait chantée de Chavela, mais c'est pas grave. C'est comme si elle l'avait chantée parce qu'elle est magnifique cette chanson.
C'est toi qui commence.
Je sais pas si tu vas essayer de la jouer, on va voir.
Le prends pas trop vite.
Ok, oui, Titi.
En la razón del equilibrio, creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agenció, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montada para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un destaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Se prendre la tête dans la vie, quoi, je crois.
Ouais. Grande parole philosophique du jour.
Mais oui, c'est... on aimerait bien, c'est vrai. C'est un grand débat. Voilà, donc SC. Simples cosas.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hoja. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón.
Uno vuelve siempre, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Enamórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan y el sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas al tiempo. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hoja. Al fin la tristeza, la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Enamórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan y el sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo.
N'hésitez pas à nous rejoindre dans les studios de rue Joseph Pujol. C'est pas fini, la soirée va encore nous amener au moins jusqu'à 22h ou plus.
Dans deux jours, on en a 10.
J'ai dit, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la rue de... dans le local de... le studio de la locale, plutôt. Je m'en mêle les pinceaux. Voilà, c'est rue Joseph Pujol et la soirée est pas finie.
La simples cosas. Ah, la massa. Oui, c'est ça, c'est la massa.
C'est celle qui est compliquée.
C'est guitare classique.
Vas-y, la deuxième.
La deuxième.
C'est la deuxième.
La deuxième.
La deuxième, avec le charingot.
J'ai bien aimé la deuxième.
La deuxième, c'était Gracia Salawi.
Vas-y, la massa.
On les fait tout le
temps. Laquelle?
Gracia Salawi.
Gracia Salawi. Ça m'arrange.
Ou ma colise. Fin vote.
Allez,
ah non, mais je sais pas si la rechante une deuxième fois. Si, non, mais faut que ça en mette dedans. Allez, c'est parti. Je sais pas.
Sinon, on peut faire un info-interview, genre on est des stars, et vous nous posez des questions, et on répond. Voilà.
Alors, ça peut être... On préfère que vous chantiez. Ah.
Et ben Ben moi j'aime bien la simplesse que ça. J'aime bien le dernier morceau. Donc on peut faire deux fois le même morceau à la fin, c'est possible. On n'écoute pas la requête de nos fans qui ont demandé soit le deuxième, soit le quatrième. Et ben nous on va faire le cinquième.
On n'achètera peut-être
pas. Oh merde. Ouais, mais après on ferait bis 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 terre terre terre. On fera la deuxième et la quatrième. Est-ce que vous êtes d'accord, chef?
Moi, je suis d'accord avec tout.
Allez. Vous n'allez pas savoir laquelle on fait.
Toutes les propositions.
Les chouchous, c'est par la téléphonie.
¿Qué cosa fuera?
du coup, vous êtes toujours sur la locale, même si ça semble un peu difficile à croire parfois. À Saint-Giron, 97.3. Et on va faire une autre pause musicale avant d'embrayer sur le plateau suivant. Voilà. Je laisse au soin de la technicienne de nous mettre ce qu'elle a envie d'écouter après ce magnifique concert de Idir et Marion.
See you walk away from me, yeah.